Il est 6h20. Pour la première fois en France, un procès pour des faits de terrorisme est en train d'être filmé. Celui des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher. Et de manière générale, c'est rarissime que des caméras soient autorisées dans une salle d'audience. Bonjour Christian Delage.
Bonjour.
Vous êtes historien et réalisateur et commissaire d'une exposition qui s'ouvrira dans un mois et demi à Paris. Filmer les procès, un enjeu social, ce sera aux Archives nationales. Pourquoi est-ce important qu'un tel procès soit filmé ?
Parce que le procès concerne la société française, d'ailleurs par-delà la France, plein d'autres pays se sont sentis concernés à ce moment-là. Je vous rappelle que juste après les attentats, le 11 janvier, il y a eu une manifestation de 2 millions de personnes à Paris, 4 millions dans toute la France. Donc je veux dire, les gens se sont sentis concernés, qu'ils soient parisiens ou non, français ou non. Donc il est normal que quand un procès a lieu, que ce procès puisse s'adresser à l'ensemble des Français.
La transcription ne suffit pas. Il faut des images.
Il n'y a pas de transcription. Vous savez, la justice est toujours orale et se déroule dans le temps même. Comment ?
On a des comptes rendus, via la presse notamment.
Ah oui, c'est ça, d'accord. Mais si vous voulez, il n'y a pas de transcription. Donc en fait, ce qu'on connaît d'un procès, ce qui se passe à l'intérieur du prétoire, on ne le connaît que par la présence des journalistes et par la présence des dessinateurs de presse.
Et donc ?
Il faut... Et donc, si vous voulez, c'est pour la première fois, le procès étant filmé, le procès se déroulant dans une salle qui est trop étroite en raison, entre autres, de la crise sanitaire, la majorité des journalistes se trouve dans une salle attenant et ne voit du procès que ce que les caméras leur donnent à voir. C'est donc une nouveauté d'abord pour les journalistes et ensuite, je dirais, pour l'ensemble de la société qui, pour l'instant, ne peut pas accéder, comme vous le savez, à ces documents.
Et pour vous, il faudra en filmer davantage des procès ?
Alors, disons que l'initiative revient à chaque président de tribunal, sauf pour ces procès de terrorisme, où là, c'est le parquet national antiterroriste qui a pris la décision. Oui, disons qu'il y a deux choses, si vous voulez. Il y a savoir ce qui se passe dans telle ou telle instance judiciaire, peut être intéressant à la fois pour connaître le fonctionnement de la justice, qui, en démocratie, est un fonctionnement qui est transparent. Normalement, on peut accéder à l'enceinte d'un prétoire quand on est citoyen ordinaire. C'est ce qu'on appelle la transparence des débats, la publicité des débats. Bon, là, c'est un petit peu spécial, encore une fois, à cause de cette dimension terroriste. Donc, le fait de les filmer me semble important, mais il faudrait aussi réfléchir sur la question de la diffusion de ces images.
Est-ce qu'aujourd'hui, comment ça se passe ? Que deviennent les images ?
Alors aujourd'hui, les images donc sont conservées par les archives nationales et ne sont communicables au grand public que dans un délai de 50 ans. Ça n'est pas lié à la nature spécifique de ces archives, c'est la règle normale.
Pourquoi 50 ans ? Pourquoi autant ?
Parce que c'est le délai, si vous voulez, des archives en France qui doit protéger, si vous voulez, les personnes, qui doit protéger certaines situations. Enfin, il y a tout un tas de raisons, si vous voulez, qui font que les archives ne sont pas immédiatement disponibles. Mais là, elles le sont, en fait, dès la clôture du procès, après tous les appels, les archives peuvent être disponibles sous dérogation pour les chercheurs et pour les professionnels.
D'accord, donc il y a quand même une petite partie, un petit nombre de personnes qui y aura accès, mais de quelle façon ils pourront exploiter ces images ? Ils n'ont pas le droit de les diffuser, ils ont juste le droit de les consulter sur place, c'est tout ?
Alors, les chercheurs, oui. Pour les professionnels, c'est-à-dire des journalistes comme vous ou des réalisateurs, ils peuvent tout à fait demander une dérogation au président du tribunal de grande instance pour faire un montage, pour faire un documentaire radio ou un documentaire télé. C'est dans l'ordre du possible.
Il y a quel type d'image on peut trouver ? Par exemple, là, pour le procès qui a lieu en ce moment, le procès de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher, il y a quoi ? Il y a 5 caméras, c'est ça ?
Alors en fait, donc là, on est dans une salle du nouveau tribunal judiciaire de Paris, la Porte de Clichy. L'ensemble des salles de ce tribunal sont équipées de caméras.
D'accord.
Donc en fait, il n'y a pas de disposition particulière. Là, il y en a 5, effectivement. Mais normalement, le réalisateur doit suivre ce qu'on appelle le droit fil de la parole, c'est-à-dire il ne doit filmer que celui ou celle à qui le président a donné la parole. Donc nous avons milité, nous sommes un certain nombre à avoir milité auprès du ministère pour qu'il y ait une plus grande souplesse, si vous voulez, pour qu'on accepte le champ contre champ, pour qu'on donne aux futurs spectateurs une meilleure vision de ce qui s'est passé à l'intérieur de la salle du tribunal.
Et vous avez obtenu gain de cause ?
Je crois qu'on peut dire que oui, dans le cahier des charges, des nouvelles dispositions sont données, alors sous contrôle, évidemment, mais je pense qu'il y a une compréhension que la caméra ne peut jamais rendre compte de ce que la personne physiquement présente dans le tribunal entend, voit et ressent. Donc il faut vraiment faire le maximum pour que l'enregistrement soit le plus fidèle à ce qui se passe dans un moment T.
Christian Delage, comment ça se passe ailleurs, chez nos voisins ou dans d'autres pays plus lointains? Est-ce que vous diriez que la France est particulièrement stricte en la matière et que est-ce qu'il y a d'autres pays qui filment plus facilement les procès?
Alors, disons que nous sommes les seuls à avoir une loi en 1985, donc à l'initiative de Robert Badinter, à l'époque garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui permet l'enregistrement de procès qui présente un intérêt sociologique, historique, enfin il y a plusieurs définitions qui sont données. C'est-à-dire qu'il y a le sentiment, si vous voulez, que certains procès vont avoir une valeur telle du point de vue de la transmission, du point de vue de la conservation d'une mémoire, qu'il faut les filmer.
Comme donc, ça a été le cas pour le procès Papon, je donne juste deux exemples, ou l'affaire du sang contaminé. Ça fait partie des rares procès qui ont été filmés jusqu'à présent en France.
Tout à fait. Mais dans d'autres pays, ça se passe aux États-Unis, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça n'est pas la liberté qui domine. La Cour suprême, par exemple, n'autorise pas le filmage des procès. Et ensuite, c'est un peu la discrétion de chaque juridiction dans chaque État des États-Unis. Donc, je crois qu'on a une loi qui, au départ, a été conçue par Robert Badinter comme étant à visée plus large. Parce que lui, ce qui l'intéressait aussi, c'est qu'on filme la manière dont la justice se rend ordinairement. Vous voyez, pas seulement dans des grands procès à caractère historique, parce qu'il était soucieux qu'on garde une trace du fonctionnement de la justice.
Et pour prolonger cette conversation, j'invite nos auditeurs à aller découvrir cette exposition. Alors pas tout de suite, hein, ce sera à partir du 18 octobre aux Archives Nationales, exposition sur le fait de filmer les procès, une exposition dont vous êtes l'un des deux commissaires. Merci beaucoup Christian Delage, invité du 5-7 ce matin.
Plaisir.